France Culture, Philippe Garbi, Alban Penaranda, Christine Goémé, Hassan Mbéchour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 6h30.
Nuit câline spéciale Saint-Valentin, nous allons parler d'amour sur France Culture.
Chaque fois qu'on parle d'amour, c'est avec jamais et toujours revient. Je te ferai le serment qu'avant toi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil, le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de mes reins, douce la chaleur de tes mains. À chaque fois, à chaque fois, chaque fois qu'on parle d'amour, chaque fois qu'on aime d'amour, c'est avec jamais et toujours. On refait le même chemin en ne se souvenant de rien. On recommence soumise Florence et Naples, Naples et Venise. On se le dit, on y croit que c'est pour la première fois. À chaque fois, à chaque fois, chaque fois qu'on aime d'amour, à pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Et bien qu'on connaisse l'histoire, pouvoir s'émerveiller d'y croire, espérer faire pour pas une thune l'éclair d'amour au clair de lune, et rester là c'est merveilleux, à se rire du fond des yeux. Pouvoir encore et toujours s'aimer, mentir d'amour. Dis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Viens et refais-moi le serment qu'avant moi, il n'y avait pas d'avant. Il n'y avait pas d'ombre et pas de soleil, le jour, la nuit, c'était pareil. Il n'y avait pas au creux de terrain, douce la chaleur de mes mains. Ah, redis-le, redis-le-moi que je suis ta première fois. Ah, redis-le-moi, je le crois et j'aime pour la première fois. Comme à chaque fois, comme à chaque fois, comme à chaque fois.
La date du 14 février est une conjonction entre plusieurs mythes, fêtes et légendes liées au début du printemps, saison du renouveau et de la renaissance. La Saint-Valentin prend la relève de la fête romaine des Lupercales, pendant laquelle, du 13 au 15 février, les Luperques parcouraient les rues de Rome presque nues et frappaient avec des lanières en cuir de bouc ceux et celles qui désiraient des enfants. Comme toujours, l'Église reprit à son compte cette fête païenne et instaura le 14 février la Saint-Valentin qui rassemble sous ce nom plusieurs martyrs. Mais c'est en Angleterre au XIVe siècle, dans l'œuvre de Chaucer, que l'on trouve, semble-t-il, les premières mentions de la connotation amoureuse de la Saint-Valentin, jour où, disait-on, s'accouplaient les oiseaux. Un poète vaudois, Othon de Granson, présente à la cour d'Angleterre puis de Savoie, consacra à cette coutume presque un tiers de son œuvre. Et au début du XVe siècle, Charles d'Orléans fit connaître l'œuvre d'Othon à la cour de France, écrivant lui-même plusieurs poèmes dédiés à la beauté pour la Saint-Valentin. Je cite « Donnez le jour Saint-Valentin martyr en la cité de gracieux désir où nous avons fait notre conseil tenir ». Par la suite, cette tradition se perdit dans le monde latin et ne fut réactualisée qu'au XIXe siècle. À la fin du Moyen-Âge latin, quand surgissent les grands textes en langue vernaculaire, l'amour devient le thème central chez les poètes. Le plus célèbre d'entre tous, Dante, termine sa Divine Comédie sur l'apologie de l'amour qui fait se mouvoir le soleil et les autres étoiles. Car l'amour ouvre par la grâce d'une rencontre sur l'expérience la plus vive de l'altérité. Il suscite l'étonnement, la curiosité, le désir pour un autre et nous fait devenir un autre pour nous-mêmes. Il brise les limites de et entre nos sens, nos pensées, nos mots. Il nous métamorphose et nous singularise. La Saint-Valentin est donc l'occasion de redire à quel point l'amour est la grande aventure de la vie. Nous accompagne cette nuit une psychanalyste. Bonsoir Martine Lerude. Et le médiéviste bien connu de nos auditeurs, professeur au Collège de France, qui connaît mieux que quiconque la manière dont on parlait d'amour au Moyen-Âge. Bonsoir Michel Zinc.
Bonsoir.
Martine Lerude, c'est toujours un problème avec l'amour, malentendu et ou traumatisme amoureux. qui conduit quelqu'un en analyse, finalement. On vient parce qu'on est atteint d'une maladie d'amour, en quelque sorte.
On vient parce qu'on a des problèmes avec l'amour et que se mettent en travers du chemin des choses auxquelles on n'avait absolument pas pensé et qui font que ça va mal. Ça va mal en amour, ça va aussi mal dans le travail, parce qu'en général, c'est complètement lié. Il y a différentes modalités, bien sûr, sur la façon dont ça peut aller mal en amour. Ça peut aller mal en amour parce qu'il y a des ruptures, il y a des pertes qui sont liées à la contingence, la mort de l'être aimé, par exemple, ou sa disparition pour une autre. Je dis une autre, je me mets déjà dans une position de femme et pas de psychanalyste pour parler. Et puis, aussi, il y a aujourd'hui ce qui serait peut-être plus, je dirais, singulier à notre époque, c'est l'impossibilité, justement, à pouvoir rencontrer l'autre dans son altérité radicale. Car les positions phobiques qui font que l'autre apparaît comme dangereux, comme une atteinte à ce qui pourrait être finalement notre moi, notre bien-être, l'autre n'est jamais celui qui conviendrait. Donc, on rencontre aujourd'hui des jeunes femmes, je dis plutôt des jeunes femmes, pour les hommes ça va se poser autrement, des jeunes femmes qui sont parfaites sous tout rapport, qui sont jolies, belles, éduquées, intelligentes, qui ont un bon métier et qui sont dans l'incapacité de rencontrer un partenaire. Et partenaire, ça peut être une femme ou un homme. C'est-à-dire un partenaire qui est de l'autre, avec un grand A, de l'autre sexe. Ça ne veut pas dire du sexe anatomique différent, mais ça veut dire qu'il y a l'incapacité à la rencontre. Et cette incapacité à la rencontre vient effectivement interroger les modalités de représentation de notre société. À quelles, finalement, quelles sont les images qui viennent faire référence? Et ce sont le plus souvent des images de complétude qui ne supportent pas, qui sont intolérantes à tout ce qui viendrait faire créer une entame.
Vous voulez dire des images publicitaires, en quelque sorte? Par exemple, le couple heureux avec le chien, le jet d'eau, la petite maison et le jardin horrible?
Puis il y a aussi tout le blabla dans lequel les gens sont noyés, puisqu'on est noyé dans un blabla incroyable. Et l'amour dégouline. Il faut aimer. Ce matin, j'entendais Radio Classique, la radio qui vous aime. Comment une radio peut-elle m'aimer le matin au petit déjeuner? On va écrire des dictionnaires amoureux. C'est-à-dire que l'amour est comme ça partout. Il faut aimer ses enfants, aimer ses parents, aimer ses amis. On est dans un impératif d'amour qui finalement ne fait que provoquer du repli sur cette bulle narcissique qui est pourtant bien mal assurée chez nos contemporains.
Michel Zinc, il semble qu'on ait affaire à une lente mais visible et repérable transformation dans les textes qui vont permettre à une certaine époque, autour du XIIIe siècle, de passer de l'amour de Dieu à l'amour passion. Alors vous écrivez par exemple, on constate une tendance et un effort de la poésie des troubadours pour intégrer la représentation de l'amour passion, de l'éros, dans la représentation globale de l'amour dont il est une partie et dont l'amour divin est la racine. Donc tout se passe au fond comme si il y avait une espèce de processus de laïcisation pour dire les choses.
D'une certaine façon, une laïcisation, mais surtout l'effort pour résoudre une sorte de difficulté. Finalement, comme aujourd'hui, mais d'une façon différente, au Moyen-Âge, on se sent piégé par la nécessité d'aimer. Pas du tout comme aujourd'hui, Martin Rund l'a décrit magnifiquement, mais on est dans une religion de l'amour. Donc, l'amour est tout. Mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire aimer ceci, cela? Puis, cette religion vous dit d'aimer, et en même temps, elle fait peser sur la passion amoureuse et sur l'éros des formes d'interdit qui sont sévères. Alors, comment se débrouiller entre tout cela? Donc, j'ai développé une théorie qui est vraie ou fausse sur la façon dont l'inspiration amoureuse a remplacé l'idée d'une inspiration divine dans le furor poeticus. Et Je pense, je crois ne pas me tromper, que dès les débuts de cette poésie amoureuse, ce moment où bon, il y a une poésie amoureuse depuis toujours, on a aimé depuis toujours, mais au Moyen-Âge, l'amour devient la grande affaire de la poésie, ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité, où c'était un genre mineur. Parce qu'on vit profondément ces contradictions de l'amour. Il n'y a jamais vraiment de bon moment pour l'amour. On désire, mais c'est une telle souffrance, mais c'est une telle inquiétude. On est horriblement malheureux en amour, mais même horriblement malheureux en amour, il y a toujours une exaltation dont on ne veut pas se séparer. La seule maladie dont on ne veut pas guérir, à laquelle, plutôt une exaltation à laquelle on ne veut pas renoncer. On est parfaitement heureux en amour, mais même parfaitement heureux, il y a une inquiétude. Et même, si vous me permettez, pour la Saint-Valentin, si je commence par la fin, vous avez raison, ça commence au XIVe siècle en Angleterre. Charles d'Orléans l'importe en France, cette mode de la Saint-Valentin, parce qu'il est resté 25 ans prisonnier en Angleterre et qu'il était visiblement victime du syndrome de Stockholm. Mais même une fois rentré en France, on voit que la Saint-Valentin, ce n'est jamais tout à fait parfait. Ou bien, il est à la fois trop blasé et trop jeune. Il y a un poème où il dit « Je suis déjà d'amour tanné, ma très douce Valentine, et vous êtes trop tôt née. » C'est-à-dire, moi, je suis déjà... J'ai l'expérience de l'amour, hein, je suis tanné en amour. Puis vous, vous êtes un peu vieille pour moi. Pof, c'est fini. C'est un poète très particulier, sous une apparence de limpidité, Charles d'Orléans. Oui. Et pour revenir à mes troubadours, c'est tout à fait autre chose. Mes troubadours, enfin les débuts, ou les trouvères.
Parlons des trouvères, oui.
Mais quand même, c'est bien cette question de l'humour. Parce que justement, dans ma pratique de psychanalyste, quand les gens viennent avec leur souffrance d'amour, il n'y a pas d'humour. C'est-à-dire que l'humour est quelque chose qui est, il y a plus de mots d'esprit. Tout est englué dans une, comment dirais-je, dans une certitude qui fait que le sujet ne pourrait plus prendre le risque, justement, de cette inquiétude dont vous parlez. Il ne pourrait pas prendre le risque d'être sans garantie. Donc, il est dans une réserve et dans un retournement sur lui-même qui, effectivement, l'empêche. Empêche toute rencontre.
Une sorte de d'attitude sécuritaire, en quelque sorte.
Sécuritaire, puisque, effectivement, on est dans le monde du contrat, hein, le monde de la sécurité, sécurité de l'emploi, on voudrait aussi la sécurité de l'amour. Et l'amour, c'est cette dimension du risque, et du risque de l'autre, c'est ce qui est le plus refusé. Donc, cette espèce d'embarras du sujet à y aller sans garantie. Donc, cette inquiétude. Qui fait aussi la consistance du désir.
Et bien voilà, et ben, mon Moyen-Âge, du coup, est très bien parce qu'il refuse absolument la sécurité de l'amour. L'amour doit être inquiet. L'amour est un sentiment contradictoire. Ils ont un mot pour... Enfin, en Languedoc, le joy, qui est à la fois l'exaltation et la souffrance de l'amour. Et si l'amour n'est pas à chaque instant en risque, eh bien, il n'existe pas. Et du coup, cet humour sur l'amour existe chez presque tout, chez tous les grands poètes du Moyen-Âge, chez Chrétien de Troyes, qui est un romancier de l'humour et de l'amour, mais chez beaucoup de grands troubadours. Mais Christine Goyme, vous avez quelque chose à nous montrer.
Oui, surtout je à vous lire. C'est un livre que vous m'avez offert, Michel Zahar.
Ah ben, voyez.
Les chansons des trouvères parues dans votre collection Les Lettres Gothiques. C'est formidable d'ailleurs. Très belle collection. Je la recommande à tout le monde.
Merci.
Alors, donc, page 347. Dame, lutiner est agréable, donner des baisers, se coucher, s'amuser, caresser, prier et contempler. Mais sans le faire, c'est mourir. C'est la racine des soupirs et c'est l'amertume en amour. Donc, mieux vaut le faire et puis s'enfuir.
Voilà. Alors, le faire, donc cet euphémisme est toujours utilisé et avec toujours, non, tout de même, ce qui montre aussi l'inquiétude, c'est que soit de façon sérieuse, soit sur le ton de l'humour, il y a toujours cette alternative entre l'aimer et le faire, comme si ça n'allait pas, la coïncidence n'était pas parfaite. Par exemple, il y a un jeu parti, ces poèmes dialogués et chantés. Le premier poète, dans la première strophe, pose un cas de un problème de casuistique amoureuse. Et le deuxième choisit une des deux solutions. Alors le premier a l'avantage de la question, puis il impose le schéma métrique, la musique, etc. Mmh. Et l'autre a le choix de la solution. Et par exemple, l'une des questions, c'est qu'est-ce que vous préféreriez ? Que celle que vous aimez vous accorde ce soir les faveurs ultimes et ensuite ne vous aime plus jamais, ou bien qu'elle vous aime jusqu'à ce que la mort vous sépare parfaitement sans jamais vous accorder cette faveur ultime. Et alors il faut choisir.
Là aussi, est-ce qu'on a des réponses ? Est-ce qu'on a des...
Ah ben, il y en a un qui choisit une solution et celui qui a posé la question est obligé de prendre la solution inverse en disant mais non, c'est idiot, c'est scandaleux, etc. Et puis ça se développe pendant 6 ou 8 strophes.
Vous parliez aussi, Michel Zang, d'ailleurs, des femmes qui parlent qui écrivaient, enfin qui chantaient, en tout cas l'amour au Moyen-Âge, notamment ce qu'on appelle les chansons de toile. Alors j'ai découvert ça aussi dans un livre, mais justement, je voulais savoir, Martine Lerude, est-ce que les hommes et les femmes parlent de la même manière d'amour ou pas du tout ?
Ils ne parlent pas la même langue, les hommes et les femmes. Encore qu'il
y a toujours des malentendus, mais quand même.
Et encore qu'il ne faut pas dire les hommes et les femmes, puisqu'il ne faut pas réduire les choses au sexe anatomique. Des positions féminines et des positions masculines. Mais c'est vrai, par exemple, dans la littérature moyenâgeuse, j'étais extrêmement intéressée par le texte d'Hérèque et Énide, où effectivement, il perd sa position phallique d'homme, justement, de trop aimer Énide. Et je trouve qu'il y a là, je dirais, une question tout à fait d'actualité, puisque les femmes peuvent reprocher aux hommes de ne plus être dans une position phallique, de ne plus en avoir les attributs d'aujourd'hui, encore faudrait-il savoir quels ils sont, ils ont varié, mais il y a quand même ce souci d'aller revendiquer auprès des hommes qu'ils aient les attributs phalliques, alors qu'elles, elles vont montrer qu'elles peuvent faire l'homme beaucoup mieux que leur partenaire. Et effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a ce renoncement aux attributs phalliques qui n'est pas pour autant le renoncement à l'altérité, mais qui est le renoncement à un imaginaire phallique. Et alors,
c'est difficile parce qu'en effet, les femmes travaillent. Elles ont souvent, d'ailleurs, des rôles sociaux aussi importants et peut-être même quelquefois plus importants certaines que leurs époux. Mmh. Et donc, en effet, les questions sont un peu délicates. Évidemment, ça pose problème. C'est pas exactement le même rapport entre la dame et le troubadour, tout de même.
Oui, le cas d'Hérèque et Énide est en effet extrêmement intéressant, mais aussi parce que c'est un roman ambigu, parce que Hérèque renonce, selon le langage psychanalyste, à ses attributs ou phalliques, en ce sens que, ayant épousé Énide, il renonce à accomplir son devoir de chevalier et de fils du roi. Et il s'endort dans une lune de miel éternelle. Elle ne le lui reproche pas. Elle entend qu'on le lui reproche. Elle en souffre pour lui. Elle lui dit ce qu'elle a entendu. Et à ce moment-là, il semble, on ne sait pas ce qu'il en pense. Lui, il y a une sorte d'opacité d'Hérèque. Ce qui est curieux, parce que c'est un roman écrit par un homme, mais le point de vue est celui d'Énide. On ne sait pas de tout le roman ce que pense Hérèque. On voit ce qu'il fait. Il a l'air en colère, il l'a fait habiller de sa plus belle robe, il l'envoie à cheval devant lui comme un appât, et il suit derrière, il lui montre sa vaillance par les aventures successives, et ils finissent par se retrouver, et comme s'ils se réconciliaient, mais ils n'ont jamais été vraiment fâchés. De sorte qu'il y a certainement une blessure narcissique d'Hérèque, mais qui n'est pas avouée. Il y a une supériorité d'Énide, qui est évidente tout au long du roman, mais qui n'est jamais reconnue. Et Énide triomphe, d'une certaine façon, sans avoir eu à le dire. Mais c'est le roman d'un homme. Et en ce moment, ce qui est très curieux, c'est que pour ces chansons de femmes dont vous parlez, Christine Goémé, les chansons de toile françaises du XIIIe siècle, mais aussi les cantigas do amigos galiciennes portugaises à peu près de la même époque, mais aussi d'autres. Lorsqu'on a une idée du nom de l'auteur, c'est un homme.
Ah.
Il y en a probablement qui étaient écrites par des femmes.
Alors, parce que chansons de toile, on suppose Michel Zinc, que c'était en fait des chansons que les femmes se chantaient quand elles tissaient, tressaient, faisaient de la couture.
Mais c'est un genre qui a une apparence très archaïque, qu'on voit ressurgir brusquement, qui connaît une mode brève au début du XIIIe siècle, et en partie sous l'impulsion d'un romancier homme, tellement malin, tellement retors, d'ailleurs il a le sobriquet de Jean Renard et on ne sait pas son vrai nom, hein, qu'on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. Et il montre deux dames, la mère et la fille, très provinciales, au fond de leur château, au fond des bois, en Franche-Comté, hein, loin de la cour de l'empereur ou à l'action, etc. Et qui, le méchant sénéchal de l'empereur, enfin bref, qui finit par apprendre de la mère trop naïve que sa fille a une marque de naissance en forme de rose sur la cuisse, et après il y aura un autre roman où ce sera une marque de violette sur le sein, mais enfin bon, tout autre. Et il leur demande de chanter, et la mère s'en défendit, c'est autrefois que les dames et les reines travaillaient à leur broderie en chantant des chansons d'histoire, et elles chantent des chansons où on voit une mère et une fille travailler à leur broderie, donc une sorte de construction en abîme de la scène. Et on a d'autres chansons du même type, et on ne sait jamais, c'est certainement une tradition ancienne, mais réutilisée avec une sorte de malice. Et une de ces chansons, ça s'appelle « Oriolan au solier dans la chambre haute, qu'il pleure, elle appelle son ami Élié, il ne vient pas, elle est malheureuse, elle est mélancolique, etc. Il finit par revenir, elle est contente, ils couchent ensemble, tout est bien. » Et dernière strophe, « Ainsi advienne à tous amis, que ce soit le sort de tous les amoureux, que ça tourne aussi bien, et je, qui cette chanson fit sur la rive de mer, pensif, c'est-à-dire mélancolique, pensif, commande à Dieu, belle Aélis, je recommande à Dieu la belle Aélis. » Donc il avoue qu'il est un homme, qu'il en aime une autre, pas Oriolans, mais Aélis, qui a écrit cette chanson pour elle. Et, je m'arrête, mais dernier point, on a deux cas, un en Languedoc, un en Languedoïle, où on a une chanson qui est une chanson de femme, placée dans la bouche d'une femme. Les manuscrits l'attribuent à un poète homme, Rimbaud de Vacairas pour la chanson en Languedoc, Guyot de Dijon pour la chanson en Languedoïle. L'attribution est peut-être fausse. Elle l'est très probablement pour Rimbaud de Vacairas. Mais justement, si elle est fausse, ça ne les a pas gênés d'attribuer cette chanson de femme à un homme. Donc il y a une relation entre la projection d'un certain type de sentiment amoureux ou d'expression de l'amour sur les femmes une dissociation, si on veut, entre l'expression de l'amour et le sexe du poète. Il y a un ton particulier de ces chansons de femmes qui est une sorte de ton à la fois mélancolique. Ce sont des femmes qu'on sent négligées ou abandonnées, passives naturellement, dans l'attente d'un séducteur qui vient ou qui ne vient pas, et en même temps des chansons très sensuelles, parce que, non pas sensuelles par grivoiserie, il y a d'autres chansons, oui, des chansons de femmes aussi grivoises, mais celle-là sensuelle par innocence, parce que ces femmes avouent avec candeur un désir qu'elles n'ont pas l'idée de dissimuler. Et dans la chanson de Guyot de Dijon, c'est une chanson de croisade féminine, comme on dit, une jeune femme dont l'ami est parti pour la croisade, et elle dit, la chemise qu'il avait vêtue les croisait pendant la première étape du pèlerinage, la première étape était courte, les dames pouvaient les accompagner, portait une haire, un cilice, puis ensuite il l'enlevait. Et elle dit, ce cilice qu'il portait, eh bien je l'ai gardé, et la nuit, quand l'amour que j'ai pour lui me pique, je la prends avec moi dans mon lit très étroitement contre ma chair nue pour adoucir mes maux. Et cet aveu, cette forme d'aveu, c'est typique de ce qu'il considère comme des chansons de femmes. Une sensualité mélancolique, à la fois très précise, très physique et innocente.
Oui, Martine Lorine.
Oui, là, je suis très frappée par ce que, quand vous dites parler d'un désir, dans ces chansons, on va trouver un désir qu'elles n'ont pas l'idée de dissimuler.
Oui.
Et effectivement, cette question du désir, c'est la question de la psychanalyse. C'est-à-dire, au fond, quel est le désir qui mène le sujet? Et le chagrin d'amour, si c'est un chagrin d'amour, ou ce qui marche pas en amour, qui est pas forcément de l'ordre du chagrin, qui est de l'ordre d'un impossible souvent confondu avec de l'impuissance d'ailleurs. C'est effectivement, les femmes vont être davantage celles qui vont trouver des hypothèses, expliciter, faire des hypothèses sur ce qui leur arrive, alors que les hommes ont beaucoup plus de mal, parce qu'ils sont plutôt sur le mode de la dépression radicale et des difficultés à parler, que les femmes qui, elles, peuvent justement...
Essayer de mettre des mots.
Essayer non seulement de mettre des mots, mais de construire des hypothèses et de relayer les choses avec ce qui leur est déjà arrivé, avec leur histoire, avec l'histoire de la famille ou la grande histoire. C'est-à-dire que la capacité à l'hypothèse est peut-être plus facile chez les femmes qui viennent consulter un analyste. Et là, il faut être très... Il faut faire attention quand on dit ça, parce que c'est tout de suite de le dire, c'est déjà faux hein, en soi. C'est peut-être plus facile que pour les hommes qui restent plutôt sans voix. Hein, bon, voilà, c'est ça. Un désir hein, qu'elles n'ont pas l'idée de dissimuler.
Oui.
C'est peut-être quelque chose.
Mais ça, c'est passionnant. Puis vous êtes dans le vrai, vous comprenez, parce que vous voyez, comme on dit à Rio, les vrais gens. Tandis que moi, je ne vois que des poètes et je ne vois pas, puisqu'ils vivaient il y a entre 5 et 10 siècles. Alors. Donc, c'est qu'à me taire.
En tout cas, peindre comme le Moyen-Âge le fait avec prédilection, le changement des saisons, le renouveau printanier, la régénération des plantes, l'élan qui pousse les êtres sexués à s'unir, c'est à la fois préluder à l'expression de la passion amoureuse et la justifier en la rapportant à la loi de la nature. C'est ça que vous écrivez, Michel Zinc. Alors, c'est l'amour qui influence, au fond, la perception des saisons, de la vie, du monde, c'est ça?
Oui, Le Moyen-Âge l'époque du passé vivent beaucoup au rythme des saisons, d'abord parce que c'est un monde rural, parce qu'on se chauffe moins bien, parce que c'est un monde paysan, enfin tout pousse à vivre au rythme des saisons. Et en même temps, alors là aussi il y a une sorte de déchirement, parce que cette poésie s'enracine dans le renouveau printanier. Au point qu'il y a plus d'un siècle, les premiers philologues qui l'ont étudié ont considéré que le lyrisme amoureux dans nos langues était lié aux fêtes du renouveau printanier, fêtes d'avril, fêtes de mai, et effectivement, qui ont subsisté très longtemps,
oui, bien
tant
sûr.
Qu'il y a eu une vie rurale, en somme traditionnelle, elles ont subsisté. Et effectivement, nous avons des chansons reliées à cela. Mais il y a aussi, dans le sentiment de la nature, comme nous dirions aujourd'hui, qu'à le Moyen-Âge, quelque chose de particulier et qui favorise cette sorte d'osmose à la fois sensuelle et affective entre la nature et l'affect amoureux. C'est que pour nous, nous regardons la nature. C'est un spectacle. Depuis le romantisme, depuis le promeneur de Caspar David Friedrich, depuis Lamartine qui voit à ses pieds le vallon, le lac, etc. Tandis que eux n'ont pas l'idée d'un paysage avec ses lointains, ses dégradés, peut-être parce que la peinture ne connaît pas la perspective, peut-être est-ce lié. Mais ce qu'ils sentent, c'est un contact. Et lorsqu'ils parlent de la nature, ils ne décrivent pas un paysage, ils décrivent l'arbre qui est à côté d'eux, et pas l'arbre, ce rameau de l'arbre avec une petite fleur d'aubépine au bout, et un brin d'herbe qui est verdi brusquement et qui n'est plus jaune comme en hiver, et puis ce ruisseau à côté dont l'eau au printemps coule plus claire, et puis comme s'il circulait dans une sorte de chemin creux qui les environne. Ils baignent dans la nature avec tout leur sens, et c'est ce qui donne à la fois à ces strophes printanières ou quelquefois hivernales, parce qu'ils peuvent dire au contraire c'est l'hiver, etc. Et moi j'ai chaud au cœur. C'est ce qui leur donne, enfin je dis bêtement, mais un charme et une force d'émotion absolument unique. C'est en partie pour ces strophes que j'aime tellement ces poèmes. J'avais toujours l'idée de faire une anthologie de tout cela. Et ils l'ont senti tellement bien qu'à un moment donné, il y a eu... il y a une période où ils se sont dit, non mais quand même, c'est pas bien de dire, c'est le printemps, je suis amoureux, parce que ça veut dire que si c'est pas le printemps, je ne suis pas amoureux, non là. Et alors, il y a des poèmes où ils s'en défendent, mais du coup, ils en parlent quand même par prétérition. Ils disent, non, je ne dirais pas que les oiseaux chantent, non, je ne dirais pas que l'herbe pousse, etc. Je ne suis pas comme les vilains qui aboient d'amour au printemps, là. Moi, j'aime en toute saison, etc. Mais même ça, ça n'a pas duré longtemps, et la nature liée à l'amour est revenue en force, est tellement en force que ça a donné au XIIIe siècle le roman de la Rose, qui est non seulement un poème d'amour, mais une sorte de vaste réflexion sur l'amour, sur la nature et l'amour, sur la reproduction.
Voilà,
sur,
l'amour est dans un jardin.
Et ça se passe dans un jardin. C'est un développement narratif de la strophe printanière.
Alors, nous allons écouter les premières séries d'archives de cette nuit de la Saint-Valentin. Première archive, Tropisme de la passion amoureuse, des mots pour le dire. Ce sont des écrivains qui parlent de ce qui les bouleverse, et de ce qui les bouleverse, et des mots qu'on peut donner à leurs histoires d'amour. La deuxième archive est une lecture par Alain Cuny de La Chevelure de Baudelaire, une très belle lecture de 1959. Ensuite, on entendra Denis de Rougemont parler de son livre L'amour et l'Occident, qui a été un best-seller. Peut-être un mot, juste un mot, Michel Zinc, du livre de Denis de Rougemont.
Oui, oh non, je pas.
Tristan et Iseut, quoi.
Oui, non, c'est un livre admirable qui a décidé la vocation de bien des médiévistes. Oui, je ne suis pas. Je ne suis pas jusqu'au bout Denis de Rougemont, et en particulier sur le fait, mais enfin, ça demande des explications de cuistre, hein, il considère que Tristan et Iseut sont le modèle des amants courtois, effectivement, amants adultères, etc. Or, ce n'est pas le cas, ils n'ont pas été perçus comme cela par le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, au contraire, a subi à la fois une sorte d'attraction, c'est la légende la plus célèbre du Moyen-Âge, et en même temps de répulsion pour Tristan et Iseut, et tous les poètes, ou beaucoup de poètes, se situent au regard de Tristan et Iseut, et disent en particulier, moi j'aime mieux que Tristan parce que moi j'ai pas besoin d'un filtre pour aimer, aime comme ça directement. Tout tourne autour du filtre, et ils ont raison, enfin je veux pas vous embarquer sur le filtre, mais en fait, dans la légende, il n'y aurait pas besoin du filtre. Et c'est ça la grandeur de Tristan et Iseut. Mais enfin bon,
Donc après L'amour et l'Occident, et cette intervention de Denis de Rougemont qui date de 1956, une archive sur l'amour et l'Orient, bien entendu. Et puis, pour terminer cette première partie d'écoute, une très très belle lettre bouleversante d'Héloïse Abélard. Nous nous retrouvons tout de suite après cette écoute, n'est-ce pas Martine Lerude, Michel Zinc, si vous en êtes d'accord.
Avec plaisir.